Chapitre 11. Madame de Staël, le roi Louis XVI. Lorsque Gilbert reprit dans le fiacre sa place à côté de Billot et en face de Pitou, il était pâle et une goutte de sueur perlait à la racine de chacun de ses cheveux. Mais il n'était pas dans le caractère de cet homme de rester plié sous la puissance d'une émotion quelconque. Il se renversa dans l'angle de la voiture, appuya ses deux mains sur son front comme s'il eût voulu y comprimer la pensée, et après un instant d'immobilité écarta ses mains, et au lieu d'un visage renversé, montrant une physionomie parfaitement calme, « Vous disiez donc, mon cher monsieur Billot, que le roi a donné son congé à monsieur le baron de Necker. »« Oui, monsieur le docteur, et que les troubles de Paris viennent un peu de cette disgrâce. »« Beaucoup. » Vous avez ajouté que M. de Necker avait aussitôt quitté Versailles. Il a reçu la lettre à son dîner. Une heure après, il était en route pour Bruxelles. Où est-il maintenant? Où il doit être? Vous n'avez point entendu dire qu'il se fût arrêté en route? Si fait, à Saint-Ouen, pour dire adieu à sa fille, madame la baronne de Staël. Madame de Staël est partie avec lui. J'ai entendu dire qu'il était parti seul avec sa femme. « Cocher, dit Gilbert, arrêtez-moi chez le premier tailleur d'habits que vous rencontrerez. »« Vous voulez changer d'habit, dit Billot. Oui, ma foi, celui-ci sent un peu trop le frottement des murs de la Bastille, et on ne va pas visiter ainsi vêtu la fille d'un ministre en disgrâce. Fouillez donc dans vos poches et voyez si vous n'y trouvez pas quelques louis. » « Oh, dit le fermier, il paraît que vous avez laissé votre bourse à la Bastille. » C'était dans le règlement, dit en souriant Gilbert. Tout objet de valeur se dépose au greffe. Et il y reste, dit le fermier. Et ouvrant sa large main qui contenait une vingtaine de louis, prenez, docteur, dit-il. Gilbert prit 10 louis. Quelques minutes après, le fiacre s'arrêta devant la boutique d'un fripier. C'était encore l'usage alors. Gilbert échangea son ami limé par les murs de la Bastille contre un habit noir fort propre et tel qu'emportaient messieurs du tiers à l'Assemblée nationale. Un coiffeur dans sa boutique, un savoyard sur sa sellette, achevait la toilette du docteur. Le cocher le conduisit à Saint-Ouen par les boulevards extérieurs qu'on alla chercher par derrière le parc de Monceau. Gilbert descendait devant la maison de M. de Necker à Saint-Ouen au moment où 7 heures de l'après-midi sonnait à la cathédrale de Dagobert. Autour de cette maison, naguère si recherchée, si fréquentée, régnait un profond silence que troubla seul l'arrivée du fiacre de Gilbert. Et cependant, ce n'était point cette mélancolie des châteaux abandonnés, cette tristesse morne des maisons frappées de disgrâce. Les grilles fermées, les parterres déserts annonçaient le départ des maîtres, mais nulle trace de douleur ou de précipitation. En outre, toute une partie du château, l'aile de l'est, avait conservé les persiennes ouvertes, et lorsque Gilbert se dirigea de ce côté, un laquais à la livrée de M. de Necker s'avança vers lui. Alors eut lieu à travers la grille le dialogue suivant. « Monsieur de Necker n'est plus au château, mon ami. Non, monsieur le baron est parti samedi passé pour Bruxelles. Et madame la baronne, partie avec monsieur. » « Mais, madame de Staël, madame est demeurée ici, mais je ne sais si madame peut recevoir, c'est l'heure de sa promenade. Informez-vous où elle est, je vous prie, et annoncez-lui, monsieur le docteur Gilbert. Je vais m'informer si madame est ou n'est pas dans les appartements. Sans doute recevra-t-elle monsieur, mais si elle se promène, j'ai ordre de ne pas la troubler dans sa promenade. Fort bien, allez donc, je vous prie. » Le laquais ouvrit la grille, Gilbert entra. Tout en refermant la grille, le laquais jetait un regard inquisiteur sur le véhicule qui avait amené le docteur et sur les étranges figures de ses deux compagnons de route. Puis il partit en secouant la tête comme un homme dont l'intelligence est en défaut, mais qui semble mettre au défi toute autre intelligence de voir clair là où la sienne est restée plongée dans les ténèbres. Gilbert resta seul à attendre. Au bout de 5 minutes, le laquais revint. Madame la baronne se promène, dit-il, et il salua pour congédier Gilbert. Mais le docteur ne se tint pas pour battu. Mon ami, dit-il au laquais, veuillez, je vous prie, faire une petite infraction à votre consigne et dire à Madame la baronne, en m'annonçant à elle, que je suis un ami de Monsieur le marquis de Lafayette. Un louis glissé dans la main du laquais acheva de vaincre des scrupules que le nom que venait de prononcer le docteur avait déjà levé à moitié. « Entrez, monsieur, dit le laquais. » Gilbert le suivit, mais au lieu de le faire entrer dans la maison, il le conduisit dans le parc. « Voici le côté favori de madame la baronne, dit le laquais, en indiquant à Gilbert l'entrée d'une espèce de labyrinthe. Veuillez attendre un instant ici. » 10 minutes après, un bruit se fit dans le feuillage et une femme de 23 ou 24 ans, grande et aux formes plutôt nobles que gracieuses, apparut aux yeux de Gilbert. Elle parut surprise en voyant un homme, jeune encore, là où sans doute elle s'attendait à trouver un homme d'un âge assez mûr. Gilbert était en effet un homme assez remarquable pour frapper au premier coup d'œil une observatrice de la force de madame de Staël. Peu d'hommes avaient le visage formé de lignes aussi pures, et ces lignes avaient pris, par l'exercice d'une volonté toute puissante, un caractère d'extraordinaire inflexibilité. Ses beaux yeux noirs, toujours si expansifs, s'étaient voilés et affermis par le travail et la souffrance, et en se voilant et en s'affermissant, ils avaient perdu cette inquiétude qui est un des charmes de la jeunesse. Un pli profond et gracieux tout à la fois creusait au coin de ses lèvres fines cette cavité mystérieuse dans laquelle les physionomistes placent le siège de la circonspection. Il semblait que le temps seul et une vieillesse précoce eussent donné à Gilbert cette qualité que la nature n'avait pas songé à mettre en lui. Son front large et bien arrondi, avec une légère fuite qu'arrêtaient ses beaux cheveux noirs, que depuis longtemps la poudre avait cessé de blanchir, renfermait à la fois la science et la pensée, l'étude et l'imagination. À Gilbert ainsi qu'à son maître Rousseau, la saillie des sourcils jetait une ombre épaisse sur les yeux, et de cette ombre jaillissait le point lumineux qui révélait la vie. Gilbert, malgré ses habits modestes, se présentait donc aux yeux du futur auteur de Corinne sous un aspect remarquablement beau et distingué, distinction dont les mains longues et blanches, dont les pieds minces et bien attachés à une jambe fine et nerveuse, complétaient l'ensemble. Madame de Staël perdit quelques instants à examiner Gilbert. Ce temps, Gilbert, de son côté, l'employa à un salut raide et qui rappelait un peu de la civilité modeste des Quakers de l'Amérique, lesquels n'accordent à la femme que la fraternité qui rassure au lieu du respect qui sourit. Puis, d'un regard rapide à son tour, il analysa toute la personne de la jeune femme déjà célèbre et dont les traits intelligents et pleins d'expression manquaient absolument de charme. Tête de jeune homme insignifiant et trivial plutôt que trait de femme sur un corps plein de voluptueuse luxuriance. Elle tenait à la main une branche de grenadier dont, dans sa distraction, elle s'amusait à manger les fleurs. « C'est vous, monsieur, demanda la baronne, qui êtes le docteur Gilbert ?»« C'est moi, oui, madame. » »« Si jeune, vous avez déjà acquis une bien grande réputation, ou plutôt cette réputation n'appartiendrait-elle pas à votre père ou à quelques parents plus âgés que vous ?»« Je ne connais pas d'autre Gilbert que moi, madame. Et si, en effet, il y a, comme vous le dites, quelque peu de réputation attachée à ce nom, j'ai tout droit de la revendiquer. » « Vous vous êtes servi du nom du marquis de Lafayette pour pénétrer jusqu'à moi, monsieur. Et en effet, le marquis nous a parlé de vous, de votre science inépuisable. » Gilbert s'inclina. « Science d'autant plus remarquable, d'autant plus pleine d'intérêt, surtout, continua la baronne, qu'il paraît, monsieur, que vous n'êtes pas un chimiste ordinaire, un praticien comme les autres, et que vous avez sondé tous les mystères de la science de la vie. » Monsieur le marquis de Lafayette vous aura dit, je le vois bien, madame, que j'étais un peu sorcier, répliqua Gilbert en souriant. Et s'il vous l'a dit, je lui sais assez d'esprit pour vous l'avoir prouvé, s'il l'a voulu. En effet, monsieur, il nous a parlé de cures merveilleuses que vous fîtes souvent, soit sur le champ de bataille, soit dans les hôpitaux américains, sur des sujets désespérés. Vous les plongiez, nous a dit le général, dans une mort factice, si semblable à la mort réelle, que parfois celle-ci s'y trompait. Cette mort factice, madame, c'est le résultat d'une science presque inconnue, confiée aujourd'hui aux mains de quelques adeptes seulement, mais qui finira par devenir vulgaire. Du mesmérisme, n'est-ce pas? Demanda madame de Staël en souriant. Du mesmérisme, oui, c'est cela. Auriez-vous pris des leçons du maître lui-même? Hélas, madame, Mesmer lui-même n'était que l'écolier. Le mesmérisme, ou plutôt le magnétisme, est une science antique connue des Égyptiens et des Grecs. Elle s'est perdue dans l'océan du Moyen-Âge. Shakespeare la devine dans Macbeth. Urbain Grandier la retrouve et meurt pour l'avoir retrouvée. Mais le grand maître, mon maître à moi, c'est le comte de Cagliostro. Ce charlatan, dit madame de Staël. Madame, madame, prenez garde de juger comme les contemporains et non comme la postérité. À ce charlatan, je dois ma science et peut-être le monde lui devra-t-il la liberté. Soit, dit madame de Staël en souriant, je parle sans connaître. Vous parlez avec connaissance de cause. Il est probable que vous avez raison et que j'ai tort. Mais revenons à vous. Pourquoi vous êtes-vous tenu si longtemps éloigné de la France? Pourquoi n'êtes-vous pas revenu prendre votre place parmi les Lavoisier, les Cabanis, les Condorcet, les Bailly et les Louis? À ce dernier nom, Gilbert rougit imperceptiblement. J'ai trop à étudier, madame, pour me ranger ainsi, du premier coup, parmi les maîtres. Enfin, vous voilà, mais dans un mauvais moment pour nous, mon père, qui eût été si heureux de vous être utile et disgracié, est parti depuis 3 jours. Gilbert sourit. Madame la baronne, dit-il en s'inclinant légèrement, il y a 6 jours que, sur un ordre de monsieur le baron de Necker, je fus mis à la Bastille. Madame de Staël rougit à son tour. En vérité, monsieur, vous me dites là quelque chose qui me surprend beaucoup. Vous, à la Bastille? Moi-même, madame. Qu'aviez-vous donc fait? Ceux qui m'y ont fait mettre pourraient seuls me le dire. Mais vous en êtes sorti? Parce qu'il n'y a plus de Bastille. Oui, madame. Comment, plus de Bastille? Fit madame de Staël en jouant la surprise. N'avez-vous pas entendu le canon? Oui, mais le canon, c'est le canon, voilà tout. Oh, permettez-moi de vous dire, madame, qu'il est impossible que madame de Staël, fille de monsieur de Necker, ignore à l'heure qu'il est que la Bastille a été prise par le peuple. Je vous assure, monsieur, répondit la baronne avec embarras, qu'étrangère à tous les événements depuis le départ de mon père, je ne m'occupe plus que de pleurer son absence. « Madame, madame, dit Gilbert en secouant la tête, les courriers d'État sont trop habitués au chemin qui mène au château de Saint-Ouen pour qu'il n'en soit pas arrivé au moins un depuis 4 heures que la Bastille a capitulé. » La baronne vit qu'il lui était impossible de répondre sans mentir positivement. Le mensonge lui répugna, elle changea de conversation. « Et à quoi dois-je l'honneur de votre visite, monsieur ? Demanda-t-elle. Je désirais avoir l'honneur de parler à monsieur Necker, madame. Mais vous savez qu'il n'est plus en France. Madame, il me paraissait tellement extraordinaire que monsieur de Necker se fût éloigné, tellement impossible qu'il n'eût pas surveillé les événements. Que je comptais sur vous, je l'avoue, madame, pour m'indiquer l'endroit où je pourrais le trouver. Vous le trouverez à Bruxelles, monsieur. Gilbert arrêta sur la baronne son regard scrutateur. « Merci, madame, dit-il en s'inclinant, je vais donc partir pour Bruxelles, ayant à lui dire des choses de la plus haute importance. » Madame de Staël fit un mouvement d'hésitation, puis elle reprit. « Heureusement que je vous connais, monsieur, dit-elle, et que je vous sais un homme sérieux, car ces choses si importantes pourraient bien perdre de leur valeur en passant par une autre bouche. » Que peut-il y avoir d'important pour mon père après la disgrâce, après le passé? qu'il y a l'avenir, madame, et peut-être ne dois-je pas être tout à fait sans influence sur l'avenir, mais tout cela est inutile. L'important pour moi et pour lui est que je le revoie, monsieur de Necker. Ainsi, madame, vous dites qu'il est à Bruxelles. Oui, monsieur. Je mettrai 20 heures pour faire le voyage. Savez-vous ce que c'est que 20 heures en temps de révolution et combien de choses peuvent se passer en 20 heures? Oh, quelle imprudence a commise monsieur de Necker, madame, en mettant 20 heures entre lui et les événements, entre la main et le but. En vérité, monsieur, vous m'effrayez, dit madame de Staël, et je commence à croire, en effet, que mon père a commis une imprudence. Que voulez-vous, madame? Les choses sont ainsi, n'est-ce pas? Je n'ai donc plus qu'à vous présenter mes très humbles excuses pour le dérangement que je vous ai causé. Adieu, madame. Mais la baronne l'arrêta. Je vous dis, monsieur, que vous m'effrayez, reprit-elle. Vous me devez une explication de tout ceci, quelque chose qui me rassure. Hélas, madame, répondit Gilbert, j'ai dans ce moment tant d'intérêts personnels à surveiller qu'il m'est absolument impossible de songer à ceux des autres. Il y va de ma vie et de mon honneur, comme il y allait de la vie et de l'honneur de monsieur de Necker. S'il eût pu profiter tout de suite des paroles que je lui dirais dans 20 heures. Monsieur, permettez-moi de me souvenir d'une chose que j'ai trop longtemps oubliée, c'est que de pareilles questions ne doivent pas se débattre à ciel ouvert dans un parc à portée de toutes les oreilles. Madame, dit Gilbert, je suis chez vous, et permettez-moi de vous dire que c'est vous, par conséquent, qui avez choisi l'endroit où nous sommes. Que voulez-vous? Je suis à vos ordres. Que vous me fassiez la grâce d'achever cette conversation dans mon cabinet. Ah, ah, fit Gilbert intérieurement, si je ne craignais de l'embarrasser, je lui demanderais si son cabinet est à Bruxelles. Mais sans rien demander, il se contenta de suivre la baronne, qui se mit à marcher fort vite du côté du château. On retrouva devant la façade le même laquais qui avait reçu Gilbert. Madame de Staël lui fit un signe, et ouvrant les portes elle-même, elle conduisit Gilbert dans son cabinet, charmante retraite, plus masculine au reste que féminine, et dont la seconde porte et les deux fenêtres donnaient sur un petit jardin inaccessible non seulement aux personnes étrangères, mais encore aux regards étrangers. Arrivée là, Madame de Staël referma la porte et, se tournant vers Gilbert, « Monsieur, dit-elle, au nom de l'humanité, je vous somme de me dire quel est le secret utile à mon père qui vous amène à Saint-Ouen. »« Madame, dit Gilbert, si monsieur votre père pouvait m'entendre ici, s'il pouvait savoir que je suis l'homme qui a envoyé au roi les mémoires secrets intitulés « De la situation des idées et du progrès », je suis sûr que monsieur le baron de Necker paraîtrait tout à coup et me dirait « Docteur Gilbert, que voulez-vous de moi à parler? Je vous écoute !» Gilbert n'avait pas achevé ces paroles qu'une porte cachée dans un panneau peint par Vanloo s'ouvrit sans faire de bruit, et que le baron Necker parut, souriant, sur le seuil d'un petit escalier tournant au haut duquel on voyait sourdre la lumière d'une lampe. Alors la baronne de Staël fit un salut à Gilbert, et embrassant son père au front, elle prit le chemin qu'il venait de parcourir, remonta l'escalier, ferma le panneau et disparut. Necker s'était avancé vers Gilbert, il lui tendit la main en disant « Me voilà, monsieur Gilbert, que voulez-vous de moi? Je vous écoute. » Tous deux prirent des sièges. « Monsieur le baron, dit Gilbert, vous venez d'entendre un secret qui vous révèle toutes mes idées. C'est moi, il y a 4 ans, qui ai fait parvenir au roi un mémoire sur la situation générale de l'Europe. C'est moi qui, depuis ce temps, lui ai envoyé des États-Unis les différents mémoires qu'il a reçus sur toutes les questions de conciliation et d'administration intérieure qui se sont élevées en France. » Mémoire dont Sa Majesté, répondit monsieur de Necker en s'inclinant, ne m'a jamais parlé sans une admiration et une terreur profonde. Oui, parce qu'il disait la vérité. N'est-ce pas parce que la vérité était alors terrible à entendre et qu'aujourd'hui qu'elle est devenue un fait, elle est encore plus terrible à voir? C'est incontestable, monsieur, dit Necker. Ces mémoires, demanda Gilbert, le roi vous les a-t-il communiquées?
Pas tous, monsieur, deux seulement. Un sur les finances, et vous étiez de mon avis, à quelques différences près, mais j'en fus très honoré quand même.
Ce n'est pas tout. Il y en avait un où je lui annonçais tous les événements matériels qui se sont accomplis.
Ah,
oui.
Et lequel, monsieur, je vous prie?
Deux, entre autres. L'un était l'obligation où il serait un jour de vous renvoyer en face de certains engagements pris.
Vous lui avez prédit ma disgrâce.
Parfaitement.
Voilà pour le premier événement. Et quel était le second?
La prise de la Bastille.
Vous avez prédit la prise de la Bastille.
Monsieur le baron, la Bastille était plus que la prison de la royauté. Elle était le symbole de la tyrannie. La liberté a commencé par détruire le symbole. La révolution fera le reste.
Avez-vous calculé la gravité des paroles que vous me dites, monsieur?
Sans doute.
Et vous n'avez pas peur, en émettant tout haut une pareille théorie?
Peur de quoi?
Qu'il ne vous arrive malheur.
Monsieur Necker, dit en souriant Gilbert, quand on sort de la Bastille, on n'a plus peur de rien.
Vous sortez de la Bastille?
Aujourd'hui même.
Et pourquoi étiez-vous à la Bastille?
Je vous le demande.
À moi?
Mais sans doute, à vous.
Et pourquoi à moi?
Parce que c'est vous qui m'y avez fait mettre.
Je vous ai fait mettre à la Bastille?
Il y a 6 jours. La date, comme vous le voyez, n'est pas très ancienne, et vous devriez vous en souvenir.
C'est impossible.
Reconnaissez-vous votre signature?
Et Gilbert montra à l'ex-ministre l'écrou de la Bastille et la lettre de cachet qui s'y trouvait annexée.
Oui, sans doute, dit Necker, voilà la lettre de cachet. Vous savez que j'en signais le moins possible, et que ce moins possible montait encore à 4 000 par an. En outre, je me suis aperçu, au moment de mon départ, que l'on m'en avait fait signer quelques-unes en blanc. La vôtre, monsieur, à mon grand regret, aura été une de celles-là. Cela veut dire que je ne dois en aucune manière vous attribuer mon incarcération?
Non, sans doute.
Mais enfin, monsieur le baron, dit Gilbert en souriant, vous comprenez ma curiosité. Il faut que je sache à qui je suis redevable de ma captivité. Soyez donc assez bon pour me le dire.
Oh, rien de plus facile. Je n'ai jamais, par précaution, laissé mes lettres au ministère, et tous les soirs, je les rapportais ici.
Celles de ce mois sont dans le tiroir B de ce chiffonnier. Cherchons dans la liasse la lettre G.
Necker ouvrit le tiroir et feuilleta une liasse énorme qui pouvait contenir 500 ou 600 lettres.
« Je ne garde, dit l'ex-ministre, que les lettres qui sont de nature à mettre à couvert ma responsabilité. Une arrestation que je fais faire, c'est un ennemi que je me fais. Je dois donc avoir paré le coup. Le contraire m'étonnerait bien. Voyons, c'est cela, oui, Gilbert. »
Ah, cela vous vient de la maison de la reine, mon cher monsieur.
Ah, de la maison de la reine?
Oui, demande d'une lettre de cachet contre le nommé Gilbert. Pas de profession, yeux noirs, cheveux noirs, suis le signalement, se rendant du Havre à Paris, voilà tout.
Alors ce Gilbert, c'était vous?
C'était moi. Pouvez-vous me confier la lettre?
Non, mais je puis vous dire de qui elle est signée.
Dites.
« Comtesse de Charny. »«
Comtesse de Charny ?» répéta Gilbert. « Je ne la connais pas, je ne lui ai rien fait. »
Et il releva doucement la tête comme pour chercher dans ses souvenirs.
« Il y a en outre une petite apostille, sans signature, mais d'une écriture à moi connue. Voyez. »
Gilbert se pencha et lut à la marge de la lettre « Faire sans retard ce que demande la comtesse de Charny. »
« C'est étrange, dit Gilbert. La reine, je conçois encore cela. Il était question d'elle et des Polignac dans mon mémoire, mais cette comtesse de Charny,
vous ne la connaissez pas?
Il faut que ce soit un prête-nom.
Au reste, rien d'étonnant. Vous comprenez que les notabilités de Versailles me soient inconnues. Il y a 15 ans que je suis absent de France. Je n'y suis revenu que 2 fois et l'ai quitté à cette seconde fois, voici tantôt 4 ans. « Qui est cette comtesse de Charny, s'il vous plaît ?»« l'amie, la confidente, l'intime de la reine, la femme très adorée du comte de Charny, une beauté et une vertu à la fois, un prodige enfin. Eh bien, je ne connais pas ce prodige. S'il en est ainsi, mon cher docteur, arrêtez-vous à ceci, que vous êtes le jouet de quelque intrigue politique. N'avez-vous point parlé du comte de Cagliostro? Oui, vous l'avez connu. Il a été mon ami, plus que mon ami, mon maître, plus que mon maître, mon sauveur. Eh bien, l'Autriche ou le Saint-Siège aura demandé votre incarcération. Vous avez écrit des brochures? Hélas, oui. Précisément, toutes ces petites vengeances tournent à la reine comme l'aiguille au pôle, le fer à l'aimant. On a comploté contre vous, on vous a fait suivre. La reine a chargé Madame de Charny de signer la lettre afin d'éloigner les soupçons, et voilà le mystère à jour. Gilbert réfléchit un instant. Cet instant de réflexion lui remit en mémoire cette cassette volée chez Biot à Pisseleux et dans laquelle ni la reine, ni l'Autriche, ni le Saint-Siège n'avaient rien à faire. Ce souvenir le remit dans la bonne voie. « Non, dit-il, ce n'est point cela, ce ne peut pas être cela, mais qu'importe, passons à autre chose. »« À quoi ?»« À vous. »« À moi ? Qu'avez-vous à me dire, à moi ?» Ce que vous savez aussi bien que personne, c'est qu'avant 3 jours, vous allez être réinstallé dans vos fonctions et qu'alors vous gouvernerez la France aussi despotiquement que vous voudrez. Vous croyez, dit Necker en souriant. Et vous aussi, puisque vous n'êtes pas à Bruxelles. Eh bien, fit Necker, le résultat, c'est au résultat qu'il faut en venir. Le voici. Vous êtes chéri des Français, vous allez en être adoré. La reine était déjà fatiguée de vous voir chéri, le roi se fatiguera de vous voir adoré, ils feront de la popularité à vos dépens, et vous ne le souffrirez pas. Alors, à votre tour, vous deviendrez impopulaire. Le peuple, mon cher monsieur Necker, c'est un lion affamé qui ne lèche que la main nourricière, quelle que soit cette main. Après ? Après, vous retomberez dans l'oubli. Moi, dans l'oubli? Hélas, oui. Et qui me ferait oublier? Les événements. Ma parole d'honneur, vous parlez en prophète. C'est que j'ai le malheur de l'être quelque peu. Hein, voyons, qu'arrivera-t-il? Oh, ce qui arrivera n'est point difficile à prédire, car ce qui arrivera est en germe à l'Assemblée. Un parti surgira, qui dort en ce moment, je me trompe, qui veille, mais qui se cache. Ce parti a pour chef un principe, pour arme, une idée. Ah, je comprends, vous parlez du parti orléaniste. Non, celui-là, j'eusse dit qu'il avait pour chef un homme, pour arme la popularité. Je vous parle d'un parti dont le nom n'a même jamais été prononcé, du parti républicain. Du parti républicain, hein, par exemple. Vous n'y croyez pas? Chimère. Oui, chimère à la gueule de feu et qui vous dévorera tous. Eh bien, je me ferai républicain, je le suis déjà. Républicain de Genève, parfaitement. Mais il me semble qu'un républicain est un républicain. Voilà l'erreur, monsieur le baron. Nos républicains à nous ne ressembleront pas aux républicains des autres pays. Nos républicains auront d'abord les privilèges à dévorer, puis la noblesse, puis la royauté. Nos républicains, vous partirez avec eux, mais ils arriveront sans vous, car vous ne voudrez pas les suivre où ils iront. Non, monsieur le baron de Necker, vous vous trompez, vous n'êtes pas républicain. Oh, si vous l'entendez comme cela, non, j'aime le roi. Et moi aussi, dit Gilbert, et tout le monde en ce moment l'aime comme nous. Si je disais ce que je dis à un esprit moins élevé que le vôtre, on me huerait, on me bafouerait, mais croyez à ce que je vous dis, monsieur Necker. Je ne demanderais pas mieux, en vérité, si la chose avait de la vraisemblance, mais connaissez-vous les sociétés secrètes? J'en ai fort entendu parler. Y croyez-vous? Mais je crois à leur existence, je ne crois pas à leur universalité. Êtes-vous affilié à quelqu'une? Non. Êtes-vous simplement d'une loge maçonnique? Non. Eh bien, monsieur le ministre, je le suis, moi. Affilié? Oui, et à toutes.
Monsieur le ministre, prenez garde, c'est un immense réseau qui enveloppe tous les trônes, c'est un poignard invisible qui menace toutes les monarchies. Nous sommes 3 millions de frères à peu près, répandus dans tous les pays, disséminés dans toutes les classes de la société. Nous avons des amis dans le peuple, dans la bourgeoisie, dans la noblesse, chez les princes, parmi les souverains eux-mêmes. Prenez garde, monsieur de Necker, le prince devant lequel vous vous irriteriez est peut-être un affilié. Prenez garde, le domestique qui s'incline devant vous est peut-être un affilié. Votre vie n'est pas à vous, votre fortune n'est pas à vous, votre honneur lui-même n'est pas à vous. Tout cela est à une puissance invisible contre laquelle vous ne pouvez combattre, car vous ne la connaissez pas et qui peut vous perdre, elle, car elle vous connaît. Eh bien, ces 3 millions d'hommes, voyez-vous, qui ont déjà fait la République américaine, ces 3 millions d'hommes vont essayer de faire une République française, et puis ils essaieront de faire une République européenne. Mais, dit Necker, leur République des États-Unis ne m'effraie pas trop, et j'accepte volontiers ce programme. Oui, mais de l'Amérique à nous, il y a un abîme. L'Amérique, pays neuf, sans préjugés, sans privilèges, sans royauté, sol nourricier, terre féconde, forêt vierge. L'Amérique située entre la mer, qui est un débouché à son commerce, et la solitude, qui est une ressource à sa population, tandis que la France, voyez donc ce qu'il y a à détruire en France avant que la France ressemble à l'Amérique. Mais enfin, où voulez-vous en venir? Je veux en venir où nous allons fatalement, mais je veux tâcher d'y venir sans secousse, en mettant le roi à la tête du mouvement. Comme un drapeau? Non, comme un bouclier. Un bouclier, fit Necker en souriant. Vous ne connaissez pas le roi, si vous voulez lui faire jouer un pareil rôle. Si fait, je le connais. Eh, mon Dieu, je le sais bien, c'est un homme tel que j'en ai vu 1000 à la tête des petits districts de l'Amérique. Un brave homme, sans majesté, sans résistance, sans initiative, mais que voulez-vous? Ne fût-ce que par le titre sacré qu'il porte, ce n'en est pas moins un rempart contre ces hommes dont je vous parlais tout à l'heure, et si faible que soit un rempart, on l'aime mieux que rien. Je me souviens dans nos guerres avec les tribus sauvages au nord de l'Amérique, je me souviens d'avoir passé des nuits entières derrière une touffe de roseaux. L'ennemi était de l'autre côté de la rivière et tirait sur nous. C'est peu de chose qu'un roseau, n'est-ce pas? Eh bien, je vous déclare cependant, monsieur le baron, que mon cœur battait plus à l'aise derrière ces grands tuyaux verdoyants qu'une balle coupée, comme des fils, que je ne l'eusse été en rase campagne. Eh bien, le roi, c'est mon roseau, il me permet de voir l'ennemi, et il empêche que l'ennemi ne me voie. Voilà pourquoi, républicain à New York ou à Philadelphie, je suis royaliste en France. Là-bas, notre dictateur s'appelait Washington, ici, Dieu sait comment il s'appellera, poignard ou échafaud. Vous voyez les choses couleur de sang, docteur. Vous les verriez de la même couleur que moi, baron, si vous vous étiez trouvé comme moi aujourd'hui à la place de Grève. Oui, c'est vrai, l'on m'a dit qu'il y avait eu massacre. Hein. C'est une belle chose, voyez-vous, que le peuple, mais quand il est beau... Oh, tempêtes humaines, s'écria Gilbert, que vous laissez loin de vous les tempêtes du ciel. Necker devint pensif. « Que ne vous ai-je auprès de moi, docteur? Vous seriez, au besoin, un rude conseiller. »« Près de vous, monsieur le baron, je ne vous serai pas si utile, et surtout si utile à la France que là où j'ai envie d'aller. »« Et où voulez-vous aller ?»« Écoutez, monsieur, il y a près du trône même un grand ennemi du trône. Près du roi, un grand ennemi du roi, c'est la reine. » Pauvre femme qui oublie qu'elle est la fille de Marie-Thérèse, ou plutôt qui ne s'en souvient qu'au point de vue de son orgueil. Elle croit sauver le roi, et elle perd plus que le roi, elle perd la royauté. Eh bien, il faut, nous qui aimons le roi, nous qui aimons la France, il faut nous entendre pour neutraliser ce pouvoir, pour annihiler cette influence. Eh bien alors, faites ce que je vous disais, monsieur, restez près de moi, aidez-moi. Si je reste près de vous, nous n'aurons qu'un seul et même moyen d'action. Vous serez moi, je serai vous. Il faut nous séparer, monsieur, et alors nous pèserons d'un double poids.
Et avec tout cela, à quoi arriverons-nous? À retarder la catastrophe, peut-être, mais certainement pas à l'empêcher, quoique je vous réponde d'un puissant auxiliaire, du marquis de Lafayette. Lafayette est un républicain, comme peut-être républicain Lafayette. S'il nous faut absolument passer sous le niveau de l'égalité, choisissons, croyez-moi, celle des grands seigneurs. J'aime l'égalité qui élève et non pas celle qui abaisse. Et vous nous répondez de Lafayette? Tant qu'on ne lui demandera que de l'honneur, du courage, du dévouement, oui. Eh bien, monsieur, parlez, que désirez-vous? Une lettre d'introduction près de Sa Majesté le roi Louis XVI. Un homme de votre valeur n'a pas besoin de lettre d'introduction, il se présente seul. Non, il me convient d'être votre créature, il entre dans mes projets d'être présenté par vous. Et quelle est votre ambition? D'être un des médecins du quartier du roi. Oh, rien de plus aisé, mais la reine. Une fois près du roi, c'est mon affaire. Mais si elle vous persécute, alors je ferai avoir une volonté au roi. Une volonté au roi, vous serez plus qu'un homme si vous faites cela. Celui qui dirige le corps est un grand niais s'il n'arrive pas un jour à diriger l'esprit. Mais ne croyez-vous point que ce soit un mauvais précédent pour devenir médecin du roi que d'avoir été enfermé à la Bastille? C'est le meilleur, au contraire. N'ai-je pas été, selon vous, persécuté pour crime de philosophie? C'est ma crainte. Alors le roi se réhabilite, le roi se popularise en prenant pour médecin un élève de Rousseau, un partisan des nouvelles doctrines, un prisonnier sortant de la Bastille, enfin, la première fois que vous le verrez, faites-lui valoir cela. Vous avez toujours raison, mais une fois près du roi, je puis compter sur vous. Entièrement, tant que vous demeurerez dans la ligne politique que nous adopterons. Que me promettez-vous? De vous prévenir du moment précis où vous devez faire retraite. Necker regarda un instant Gilbert, puis d'une voix assombrie, « En effet, c'est le plus grand service qu'un ami dévoué puisse rendre à un ministre, puisque c'est le dernier. » Et il se plaça devant sa table pour écrire au roi. Pendant ce temps, Gilbert relisait la lettre en disant, « Comtesse de Charny, qui donc cela peut-il être, hein? « Tenez, monsieur, » dit Necker au bout d'un instant, en présentant à Gilbert ce qu'il venait d'écrire. Gilbert prit la lettre et lut. Elle contenait ce qui suit. « Sire, votre majesté doit avoir besoin d'un homme sûr avec qui elle puisse causer de ses affaires. Mon dernier présent, mon dernier service en quittant le roi, c'est le don que je lui fais du docteur Gilbert. » J'en dirai assez à votre majesté en lui apprenant que non seulement le docteur Gilbert est un des médecins les plus distingués qui existent au monde, mais encore l'auteur des mémoires, administration et politique qui l'ont si vivement impressionné. Signé au pied de votre majesté, baron de Necker. Necker ne data point la lettre et la remit au docteur Gilbert, cacheté d'un simple sceau. « Et maintenant, ajouta-t-il, je suis à Bruxelles, n'est-ce pas ?»« Oui, certes, et plus que jamais. Demain matin, au reste, vous aurez de mes nouvelles. » Le baron frappa d'une certaine façon le long du panneau. Madame de Staël reparut. Seulement cette fois, outre sa branche de grenadier, elle tenait la brochure du docteur Gilbert à la main. Elle lui en montra le titre avec une sorte de coquetterie flatteuse. Gilbert prit congé de monsieur de Necker et baisa la main de la baronne qui le conduisit jusqu'à la sortie du cabinet. Et il revint au fiacre où Pitou et Billet dormaient sur la banquette de devant, où le cocher dormait sur son siège et où les chevaux dormaient sur leurs jambes fléchissantes. L'entrevue entre Gilbert, madame de Staël et monsieur de Necker avait duré une heure et demie à peu près. Gilbert rentra à Paris à 9h15, se fit conduire directement à la poste, prit des chevaux et une voiture, et tandis que Billot et Pitou allaient se reposer de leur fatigue dans un petit hôtel de la rue Thiroux, où Billot avait l'habitude de descendre quand il venait à Paris, Gilbert prit au galop la route de Versailles. Il était tard, mais peu importait à Gilbert. Chez les hommes de sa trempe, l'activité est un besoin.
Peut-être son voyage serait-il une course inutile, mais il aimait mieux une course inutile que de rester stationnaire. Chez les organisations nerveuses, l'incertitude est un pire supplice que la plus effroyable réalité. Il arriva à Versailles à 10h30. En temps ordinaire, tout le monde eût été couché et endormi du plus profond sommeil, mais ce soir-là, nul ne dormait à Versailles. On venait d'y recevoir le contre-coup de la secousse dont tremblait encore Paris. Les gardes françaises, les gardes du corps, les Suisses, pelotonnés, groupés à toutes les issues des rues principales, s'entretenaient entre eux ou avec les concitoyens dont le royalisme les engageait à prendre confiance. Car Versailles a de tout temps été une ville royaliste. Cette religion de la monarchie, sinon du monarque, est incrustée au cœur de ses habitants comme une des qualités du terroir. Ayant vécu près des rois et par les rois, à l'ombre de leurs merveilles, ayant toujours respiré l'enivrant parfum des fleurs de lys, vu briller l'or des habits et le sourire des visages augustes, les habitants de Versailles, à qui les rois ont fait une ville de marbre et de porphyre, se sentent un peu rois eux-mêmes. Et aujourd'hui, aujourd'hui encore, qu'entre les marbres apparaît la mousse, qu'entre les dalles a poussé l'herbe, aujourd'hui que l'or est prêt à disparaître des boiseries, que l'ombre des parcs est plus solitaire que celle des tombeaux, Versailles ou mentirait à son origine, ou doit se regarder comme un fragment de la royauté déchue, et n'ayant plus l'orgueil de la puissance et de la richesse, conserver au moins la poésie du regret et le charme souverain de la mélancolie. Donc, comme nous l'avons dit, tout Versailles, dans cette nuit du 14 au 15 juillet 1789, s'agitait confusément pour savoir comment le roi de France allait prendre cette insulte faite à sa couronne, cette meurtrissure infligée à son pouvoir. Par sa réponse à M. de Dreux-Brézé, Mirabeau avait frappé la royauté au visage. Par la prise de la Bastille, le peuple venait de la frapper au cœur. Cependant, pour les esprits étroits, pour les vues courtes, la question était vite résolue. Aux yeux des militaires surtout, habitués à ne voir dans le résultat des événements que le triomphe ou la défaite de la force brutale, il s'agissait tout simplement d'une marche sur Paris. 30 000 hommes et 20 pièces de canon mettraient bientôt à néant cet orgueil et cette furie victorieuse des Parisiens. Jamais la royauté n'avait eu plus de conseillers, chacun donnait son avis hautement, publiquement. Les plus modérés disaient « C'est bien simple, cette forme de langage, on le remarquera, est presque toujours appliquée chez nous aux situations les plus difficiles. C'est bien simple, disaient-ils, que l'on commence par obtenir de l'Assemblée nationale une sanction qu'elle ne refusera pas. Son attitude depuis quelque temps est rassurante pour tout le monde. Elle ne veut pas plus de violence partie d'en bas que d'abus lancés d'en haut. » L'Assemblée déclarera tout net que l'insurrection est un crime, que des citoyens qui ont des représentants pour exposer leurs doléances au roi, et un roi pour leur faire justice, ont tort de recourir aux armes et de verser le sang. Armés de cette déclaration, que l'on obtiendra certainement de l'Assemblée, le roi ne peut se dispenser de frapper Paris en bon père, c'est-à-dire sévèrement. Et alors la tempête s'éloigne, la royauté rentre dans le premier de ses droits, les peuples reprennent leur devoir qui est l'obéissance et tout poursuit sa voie accoutumée. C'est ainsi que l'on arrangeait en général les affaires sur le cours et sur les boulevards. Mais devant la place d'armes et aux environs des casernes, on tenait un autre langage. Là, on voyait des hommes inconnus à la localité, des hommes au visage intelligent et à l'œil voilé, semant à tout propos des avis mystérieux, exagérant les nouvelles déjà graves et faisant de la propagande presque publique aux idées séditieuses qui, depuis 2 mois, agitaient Paris et soulevaient les faubourgs. Autour de ces hommes, des groupes se formaient, sombres, hostiles, animés, composés de gens à qui l'on rappelait leur misère, leur souffrance, le dédain brutal de la monarchie. Pour les infortunes populaires, on leur disait « Depuis 8 siècles que le peuple lutte, qu'a-t-il obtenu ? Rien. Pas de droits sociaux, pas de droits politiques, celui de la vache du fermier à qui on prend son veau pour le conduire à la boucherie, son lait pour le vendre au marché et sa chair pour la conduire à l'abattoir, sa peau pour la sécher à la tannerie. Enfin, pressée par le besoin, la monarchie a cédé, elle a fait un appel aux États. Mais aujourd'hui que les États sont assemblés, que fait la monarchie? Depuis le jour de leur convocation, elle pèse sur eux. Si l'Assemblée nationale s'est formée, c'est contre la volonté de la monarchie. Eh bien, puisque nos frères de Paris viennent de nous donner un si terrible coup de main, poussons l'Assemblée nationale en avant. Chaque pas qu'elle fait sur le terrain politique où la lutte est engagée est une victoire pour nous. C'est l'agrandissement de notre champ, c'est l'augmentation de notre fortune, c'est la consécration de nos droits. En avant, citoyens, la Bastille n'est que l'ouvrage avancé de la tyrannie. La Bastille est prise, reste la place. Dans les endroits les plus obscurs se formaient d'autres réunions et se prononçaient d'autres paroles. Ceux qui les prononçaient étaient des hommes, évidemment appartenant à la classe supérieure, et qui avaient demandé au costume du peuple un déguisement que démentaient leurs mains blanches et leur accent distingué. « Peuple, disaient ces hommes, en vérité, des deux côtés on t'égare. Les uns te demandaient de retourner en arrière, les autres te poussent en avant. » On te parle de droits politiques, de droits sociaux. En es-tu plus heureux depuis qu'on t'a permis de voter par l'organe de tes délégués? Es-tu plus riche depuis que tu es représenté? En as-tu moins faim depuis que l'Assemblée nationale fait des décrets? Non, laisse la politique et ses théories aux gens qui savent lire. Ce n'est pas une phrase ou une maxime écrite qu'il te faut. C'est du pain, et puis du pain. C'est le bien-être de tes enfants, la douce tranquillité de ta femme. Qui te donnera tout cela? Un roi ferme de caractère, jeune d'esprit, généreux de cœur. Ce roi, ce n'est pas Louis XVI. Louis XVI qui règne sous sa femme, l'Autrichienne au cœur de bronze. C'est... Cherche bien autour du trône, cherche-y celui qui peut rendre la France heureuse, et que la reine déteste justement parce qu'il fait ombre au tableau, justement parce qu'il aime les Français et qu'il en est aimé. Ainsi se manifestait l'opinion à Versailles, ainsi se brassait partout la guerre civile. Gilbert prit langue à deux ou trois de ses groupes, puis, ayant reconnu l'état des esprits, il marcha droit au château que des postes nombreux gardaient, contre qui on n'en savait rien. Malgré tous ces postes, Gilbert, sans difficulté aucune, franchit les premières cours et parvint jusqu'au vestibule sans que nul lui demandât où il allait. Arrivé au salon de l'œil de bœuf, un garde du corps l'arrêta. Gilbert tira de sa poche la lettre de monsieur de Necker, dont il montra la signature. Le gentilhomme jeta les yeux dessus. La consigne était rigoureuse, et comme les consignes les plus rigoureuses sont justement celles qui ont le plus besoin d'être interprétées, le garde du corps dit à Gilbert, « Monsieur, l'ordre de ne laisser pénétrer personne chez le roi est formel, mais comme évidemment le cas d'un envoyé de monsieur de Necker n'était pas prévu, comme selon toute probabilité, vous apportez un avis important à Sa Majesté. Entrez, je prends l'infraction sur moi. » Gilbert entra. Le roi n'était point dans ses appartements, mais dans la salle du conseil. Il y recevait une députation de la garde nationale qui venait lui demander le renvoi des troupes, la formation d'une garde bourgeoise et sa présence à Paris. Louis avait écouté froidement. Puis il avait répondu que la situation avait besoin d'être éclairée et que d'ailleurs il allait délibérer sur cette situation avec son conseil. Aussi délibérait-il. Pendant ce temps, les députés attendaient dans la galerie et, à travers les glaces dépolies des portes, voyaient le jeu des ombres grandissantes des conseillers royaux et le mouvement menaçant de leurs attitudes. Par l'étude de cette espèce de fantasmagorie, il pouvait deviner que la réponse serait mauvaise. En effet, le roi se contenta de répondre qu'il nommerait des chefs à la milice bourgeoise et qu'il ordonnerait aux troupes du Champ de Mars de se replier. Quant à sa présence à Paris, il ne voulait faire cette faveur à la ville rebelle que lorsqu'elle serait complètement soumise. La députation pria, insista, conjura. Le roi répondit que son cœur était déchiré, mais qu'il ne pouvait rien de plus. Et satisfait de ce triomphe momentané, de cette manifestation d'un pouvoir qu'il n'avait déjà plus, le roi rentra chez lui. Il y trouva Gilbert. Le garde du corps était près de lui. « Que me veut-on ? » demanda le roi. Le garde du corps s'approcha de lui, et tandis qu'il s'excusait auprès de Louis XVI d'avoir manqué à sa consigne, Gilbert, qui depuis des années n'avait pas vu le roi, examinait en silence cet homme que Dieu avait donné pour pilote à la France au moment de la plus rude tempête que la France eût encore subie. Ce corps gros et court, sans ressort et sans majesté, cette tête molle de forme et stérile d'expression, cette jeunesse pâle aux prises avec une vieillesse anticipée, cette lutte inégale d'une matière puissante contre une intelligence médiocre à laquelle l'orgueil du rang donnait seul une valeur intermittente, tout cela, pour le physionomiste qui avait étudié chez Lavater, pour le magnétiseur qui avait lu dans l'avenir avec Balsamo, pour le philosophe qui avait rêvé avec Jean-Jacques, pour le voyageur enfin qui avait passé en revue toutes les races humaines, tout cela signifiait dégénérescence, abâtardissement, impuissance, ruine. Gilbert fut donc interdit, non par le respect, mais par la douleur, en contemplant ce triste spectacle. Le roi s'avança vers lui. « C'est vous, dit-il, qui m'apportez une lettre de monsieur de Necker ?»« Oui, sire. »« Ah ! » s'écria-t-il, comme s'il eût douté. « Venez vite !» Et il prononça ces paroles du ton d'un homme qui se noie et qui crie « Un câble !» Gilbert tendit la lettre au roi, Louis s'en empara aussitôt, la lut précipitamment, et puis, avec un geste qui ne manquait pas d'une certaine noblesse de commandement, « Laissez-nous, monsieur de Varicourt, dit-il au garde du corps. » Gilbert demeura seul avec le roi. La chambre n'était éclairée que par une seule lampe. On eût dit que le roi avait modéré la lumière pour qu'on ne pût lire sur son front, ennuyé plutôt que soucieux, toutes les pensées qui s'y pressaient. « Monsieur, fit-il, en attachant sur Gilbert un regard plus clair et plus observateur que celui-ci ne l'eût soupçonné, monsieur, est-il vrai que vous soyez l'auteur des mémoires qui m'ont tant frappé ?»« Oui, sire. »« Quel âge avez-vous ? » ?»« 32 ans, sire, mais l'étude et le malheur doublent l'âge. Traitez-moi comme un vieillard. » « Pourquoi avez-vous attendu si tard à vous présenter à moi ?»« Parce que, sire, je n'avais nul besoin de dire de vive voix à votre majesté ce que je lui écrivais plus librement et plus aisément. » Louis XVI réfléchit. « Vous n'avez pas d'autre raison, dit-il, soupçonneux ?»« Non, sire. » Mais cependant, où je me trompe, où certaines particularités eussent dû vous instruire de ma bienveillance à votre égard. Votre Majesté peut parler de cette sorte de rendez-vous que j'eus la témérité de donner au roi lorsqu'après mon premier mémoire je le priais, il y a 5 ans de cela, de placer une lumière près de la glace de sa fenêtre à 8 heures du soir pour me désigner qu'elle avait lu mon travail. « Et, dit le roi satisfait, et au jour et à l'heure dit, la lumière fut placée en effet où j'avais demandé que vous la plaçassiez. Après quoi, je la vis s'élever et s'abaisser 3 fois. Après quoi, je lus ces mots dans la gazette, « Celui que la lumière a appelé 3 fois peut se présenter chez celui qui a levé 3 fois la lumière, il sera récompensé. » « Ce sont les propres termes de la vie, en effet, dit le roi. Et voilà la vie lui-même, dit Gilbert en tirant de sa poche la gazette, où la vie qu'il venait de rappeler avait été insérée 5 ans auparavant. « Bien, très bien, dit le roi, je vous ai espéré longtemps. Vous arrivez au moment où j'avais cessé de vous attendre. Soyez le bienvenu, car vous arrivez comme les bons soldats au moment de la lutte. » Puis, regardant plus attentivement encore Gilbert, « Savez-vous, monsieur, lui dit-il, que ce n'est pas pour un roi une chose ordinaire que l'absence d'un homme à qui on dit « Venez recevoir une récompense » et qui ne vient pas ?» Gilbert sourit. « Voyons, demanda Louis XVI, pourquoi n'êtes-vous pas venu ?»« Parce que je ne méritais aucune récompense, sire. » « Comment cela ? » Né français, aimant mon pays, jaloux de sa prospérité, confondant mon individualité dans celle de 30 millions d'hommes, mes concitoyens, je travaillais pour moi, en travaillant pour eux. On n'est pas digne de récompense, sire, parce qu'on est égoïste. Paradoxe, monsieur, vous aviez une autre raison. Gilbert ne répliqua point. Parlez, monsieur, je le désire. Peut-être, sire, avez-vous deviné juste. N'est-ce pas celle-ci? Demanda le roi avec inquiétude. Vous trouviez la situation grave et vous vous réserviez. Pour une autre cause plus grave encore, oui, sire, votre majesté a deviné juste. J'aime la franchise, dit le roi, qui ne put dissimuler son trouble, car il était d'un naturel timide et rougissait facilement. « Donc, continua Louis XVI, vous prédisiez au roi la ruine, et vous avez craint d'être placé trop près des décombres. »« Non, sire, puisque c'est justement au moment où la ruine est imminente que je viens me rapprocher du danger. »« Oui, oui, vous quittez Necker et vous parlez comme lui. Le danger, sans doute, il y a du danger en ce moment à se rapprocher de moi. Et où est-il, Necker ?» Tout prêt, je crois, à se rendre aux ordres de votre majesté. Ah, tant mieux, j'aurai besoin de lui, dit le roi avec un soupir. En politique, il ne faut pas d'entêtement. On croit bien faire et l'on fait mal. On fait bien même et le capricieux événement dérange les résultats. Les plans n'en étaient pas moins bons et cependant, on passe pour s'être trompé. Le roi soupira encore. Gilbert vint à son secours. « Sire, dit-il, votre majesté raisonne admirablement, mais ce qu'il convient de faire à cette heure, c'est de voir plus clair dans l'avenir que l'on a fait jusqu'aujourd'hui. » Le roi leva la tête, et l'on put voir son sourcil sans expression se froncer légèrement. « Sire, pardonnez-moi, dit Gilbert, je suis médecin, quand le mal est grand, je suis bref. Vous attachez donc une grande importance à cette émeute d'aujourd'hui ?» « Sire, ce n'est pas une émeute, c'est une révolution. Et vous voulez que je pactise avec des rebelles, avec des assassins, car enfin, ils ont pris la Bastille de force, cet acte de rébellion, ils ont tué Monsieur de Launay, Monsieur de Lhomme et Monsieur de Flessel, cet acte d'assassinat. Je veux que vous vous sépariez les uns des autres, sire. Ceux qui ont pris la Bastille sont des héros, ceux qui ont assassiné Messieurs de Flessel, de Lhomme et de Launay sont des meurtriers. » Le roi rougit légèrement, et presque aussitôt cette rougeur disparut. Ses lèvres blêmirent et quelques gouttes de sueur perlèrent sur son front. « Vous avez raison, monsieur, vous êtes médecin en effet, ou chirurgien plutôt, car vous tranchez dans le vif. Mais revenons à vous. Vous vous nommez docteur Gilbert, n'est-ce pas? Ou du moins c'est de ce nom que vos mémoires sont signées. « Sire, c'est un grand bonheur pour moi que votre majesté ait une si bonne mémoire, quoique, à tout prendre, j'ai tort d'être si fier. »« Comment cela ? Mon nom a dû être prononcé il y a peu de temps, en effet, devant votre majesté. »« Je ne comprends pas. Il y a 6 jours que j'ai été arrêté et mis à la Bastille. Or, j'ai entendu dire qu'il ne se faisait pas une arrestation de quelque importance sans que le roi le sût. » « Vous, à la Bastille ?» fit le roi en ouvrant les yeux. « Voici mon certificat d'écrou, sire, mis en prison, comme j'ai l'honneur de le dire à votre majesté il y a 6 jours, par l'ordre du roi. J'en suis sorti aujourd'hui à 3 heures, par la grâce du peuple. Aujourd'hui ? Oui, sire, votre majesté n'a-t-elle pas entendu le canon ? Sans doute. Eh bien, le canon m'ouvrait les portes. » « Ah !» murmura le roi, « je dirais volontiers que j'en suis aise si le canon de ce matin n'avait pas été tiré sur la Bastille et sur la royauté à la fois. Oh, sire, ne faites pas d'une prison le symbole d'un principe. Dites au contraire, sire, que vous êtes heureux que la Bastille soit prise, car on ne commettra plus, au nom du roi qui l'ignore, d'injustice pareille à celle dont je viens d'être victime. » « Mais enfin, monsieur, votre arrestation a une cause. »« Aucune, que je sache, sire. On m'a arrêté à mon retour en France et l'on m'a incarcéré. Voilà tout. »« En vérité, monsieur, dit Louis XVI avec douceur, n'y a-t-il pas quelque égoïsme de votre part à venir me parler de vous quand j'ai tant besoin qu'on me parle de moi ? Sire, c'est que j'ai besoin que votre majesté me réponde un seul mot. Lequel? Oui ou non, votre majesté est-elle pour quelque chose dans mon arrestation? J'ignorais votre retour en France. Je suis heureux de cette réponse, sire. Je pourrais donc déclarer hautement que votre majesté, dans ce qu'elle fait de mal, est presque toujours abusée, et à ceux qui douteraient de me citer pour exemple. Le roi sourit. « Médecin, dit-il, vous mettez le baume dans la plaie. « Oh, sire, je verserai le baume à pleine main, et si vous le voulez, je la guérirai de cette plaie-là, je vous en réponds. « Si je le veux, sans doute, mais il faut que vous le veuillez bien fermement, sire. « Je le voudrais fermement. « Avant de vous engager plus avant, sire, dit Gilbert, lisez cette ligne écrite en marge de mon registre d'écrou. « Quelle ligne ?» demanda le roi avec inquiétude. « Voyez !» Gilbert présenta la feuille au roi. Le roi lut « À la requête de la reine ». Il fronça le sourcil. « De la reine, dit-il, auriez-vous encouru la disgrâce de la reine ?»« Sire, je suis sûr que sa majesté me connaît encore moins que votre majesté me connaissait. Cependant, vous aviez commis quelque faute. On ne va pas à la Bastille pour rien. » « Il paraît que si, puisque j'en sors. Mais monsieur Necker vous envoie à moi, et la lettre de cachet était signée de lui. Sans doute. Alors expliquez-vous mieux. Repassez votre vie. Voyez si vous n'y trouverez pas quelques circonstances que vous ayez oubliées vous-même. Repassez ma vie. Oui, sire, je le ferai, et tout haut. Soyez tranquille, ce ne sera pas long. » J'ai, depuis l'âge de 16 ans, travaillé sans relâche, élève de Jean-Jacques, compagnon de Balsamo, ami de Lafayette et de Washington. Je n'ai jamais eu à me reprocher, depuis un jour où j'ai quitté la France, une faute ni même un tort. Quand la science acquise m'a permis de soigner les blessés ou les malades, j'ai toujours pensé que je devais compte à Dieu de chacune de mes idées, de chacun de mes gestes. Puisque Dieu m'avait donné charge de créature, chirurgien, j'ai versé le sang par humanité, prêt à donner le mien pour adoucir ou pour sauver mon malade. Médecin, j'ai été un consolateur toujours, un bienfaiteur parfois. 15 ans se sont passés ainsi. Dieu a béni mes efforts. J'ai vu revenir à la vie la plupart des souffrants qui tous me baisaient les mains. Ceux qui sont morts, Dieu les avait condamnés. Non, je vous le dis, sire, depuis le jour où j'ai quitté la France, il y a 15 ans de cela, je n'ai rien à me reprocher. Vous avez en Amérique fréquenté les novateurs, et vos écrits ont propagé leurs principes. Oui, sire, et j'oubliais ce titre à la reconnaissance du roi et des hommes. Le roi se tut. Sire, continua Gilbert, maintenant ma vie vous est connue, je n'ai offensé ni blessé personne, pas plus un mendiant qu'une reine, et je viens demander à votre majesté pourquoi l'on m'a puni. Je parlerai à la reine, monsieur Gilbert, mais croyez-vous que la lettre de cachet vienne directement de la reine? Je ne dis point cela, sire. Je crois même que la reine n'a fait qu'apostiller. Ah, vous voyez bien, dit Louis, tout joyeux. Oui, mais vous n'ignorez pas, sire, que lorsqu'une reine apostille, elle commande. Et de qui la lettre est-elle apostillée, voyons? Oui, sire, dit Gilbert, voyez. Et il lui présenta la lettre d'écrou. « Comtesse de Charny !» s'écria le roi. « Comment, c'est elle qui vous a fait arrêter ? Mais que lui avez-vous donc fait à cette pauvre Charny ? Je ne connaissais même pas cette dame de nom ce matin, sire. » Louis passa une main sur son front. « Charny, murmura-t-il, Charny, la douceur, la vertu, la chasteté même. » « Vous verrez, sire, dit Gilbert en riant, que j'aurais été mis à la Bastille à la requête des trois vertus théologales. » « Oh, j'en aurai le cœur net, dit le roi, et il tira un cordon de sonnette. Un huissier entra. « Qu'on voit si la comtesse de Charny est chez la reine, demanda Louis. Sire, répondit l'huissier, Madame la comtesse vient à l'instant de traverser la galerie, elle va monter en voiture. Courez après elle, dit Louis, et priez-la de passer dans mon cabinet pour affaires d'importance. Puis, se retournant vers Gilbert, est-ce ce que vous désiriez, monsieur? Demanda-t-il. Oui, sire, répondit Gilbert, et je rends mille grâces à votre majesté.